est sur la technopole du Futuroscope, donc, qui est au nord de Poitiers, à Chassagne-du-Poitou, et on va rentrer dans l'Institut P', qui est le deuxième laboratoire de France en sciences de l'ingénieur. Et à l'intérieur de ce département, je travaille dans l'équipe hydrodynamique et écoulement environnementaux.
Alors, c'est assez intéressant d'entrer dans un laboratoire d'hydrodynamique, alors que ici vous modélisez des trous noirs et des trous blancs de manière analogue.
Donc on va voir ce que ça veut dire. Concept. Voilà, exactement. Alors, en hydrodynamique, c'est assez simple. Vous prenez un écoulement au-dessus d'un obstacle, par exemple, quand vous ouvrez votre robinet, et vous avez un jet. Et ce jet, qu'est-ce qu'il fait? Il vient impacter l'évier, le fond de l'évier. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître chaque fois que vous allez vous laver les mains? C'est un ressaut circulaire.
Alors, quelle est la validité de cette analogie? Est-ce que les équations qui régissent les écoulements des fluides, la mécanique des fluides, peuvent s'apparenter à ceux qui régissent les phénomènes où la matière et l'énergie sont à des densités inouïes?
Alors, c'est une bonne question, et alors la réponse est ça dépend de quoi on parle. Cette analogie, évidemment, n'est pas vraie au niveau de la dynamique, parce que les équations qui décrivent l'écoulement des fluides, c'est ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes. Et ces équations de Navier-Stokes diffèrent des équations de la relativité générale, des équations d'Einstein de 1915. Donc évidemment, au niveau de la dynamique, l'analogie est brisée. En même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si au niveau dynamique, elle n'est plus vraie, les équations dans les deux cas de figure sont néanmoins non linéaires. Donc ces équations non linéaires, on peut imaginer qu'elles ont des grandes classes de phénomènes, des grandes classes de solutions. Même si ça va différer, on peut imaginer qu'on a des grandes classes de phénomènes, et donc ça peut quand même nous donner des idées qu'on peut essayer ensuite de transposer vers l'astrophysique, qui nous intéresse ici à Poitiers.
Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le
système d'excitation des vagues, donc le batteur. Donc c'est un moteur linéaire qui est relié à une forme en forme de coin. Et donc ce coin qui intercepte la surface libre, eh bien, déplace un certain volume d'eau. Et ce volume d'eau, ensuite, génère une onde qui est propagée. Donc je vais mettre en route le moteur linéaire. Et je mets en route. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des vagues sinusoïdales, planes, voilà, qui arrivent et qui viennent intercepter le ressaut circulaire. Et si, je ne sais pas si vous voyez, elles se mettent à envelopper.
L'onde incidente ne peut jamais franchir le...
Premièrement, donc c'est bien un trou blanc. Et donc vous ne verrez pas les ondes pénétrer à l'intérieur du trou blanc analogue. Elles ne pénètrent pas donc, voilà, de manière directe, mais elles le contournent et elles s'enveloppent autour de ce trou blanc. Et donc l'idée ensuite, c'est d'essayer de regarder les phénomènes d'interférence des ondes, parce que ça va nous renseigner, par exemple, sur les caractéristiques de la fontaine blanche. Alors, pour faire la transposition avec les astrophysiciens, eux, ils ont une masse pour le trou noir ou pour le trou blanc. Nous, on a un débit. Mais plus je vais augmenter le débit, plus c'est comme si j'augmentais la masse du trou noir ou du trou blanc. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça.
Quels sont les autres phénomènes qu'on peut tester avec ce dispositif ?
Quelque chose qui motive énormément les troupes, si je puis dire, en ce moment, c'est les effets temporels. La naissance et la mort de la fontaine blanche ou du trou noir. Donc les aspects temporels et dynamiques.
Est-ce que ces phénomènes temporels corroborent avec les modèles théoriques qui sont...
Alors, ça fait partie, je dirais, des prédictions qui ont été faites par Hawking, à savoir dans la phase d'effondrement du trou noir. Donc, on veut essayer de regarder donc ces espaces-temps effectifs dépendant du temps. Dans cette expérience, je vais remettre en route le... Donc là, Jean-Marc, qui est l'ingénieur qui travaille avec moi, va augmenter l'amplitude des vagues. Et regardez bien. Alors, Jean-Marc, on va arrêter le moteur. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... vous voyez, on a un certain débit. Donc, on a un certain rayon du ressaut ici qui fait quelques centimètres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si on diminue le débit...
Alors, dès qu'on diminue le débit, on voit bien que le cercle se resserre.
Voilà, la masse du trou blanc diminue. Si vous regardez très attentivement, on peut voir apparaître ce qu'on appelle des ondes capillaires à l'intérieur.
Ah oui, à l'intérieur, dans la zone
voilà, là, on les voit très bien.
Il y a des rides circulaires
voilà,
qui se
tout
forment.
À fait, qui sont aussi stationnaires. Ils ne se propagent pas. Ça serait l'analogue de ce qu'appellerait Carlo Rovelli des effets de gravitation quantique. C'est-à-dire qu'on va aux échelles microscopiques. Alors nous, évidemment, je suis ici sur un fluide classique. Il n'y a pas du tout de mécanique quantique dans mon expérience. Par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai une microphysique. Donc cette microphysique associée aux effets de tension de surface, eh bien, elle va modifier la réponse dispersive du système. Et donc, la microstructure va se rappeler à nous. Et donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître... ici à l'intérieur du ressaut, ces ondes stationnaires capillaires. Or, ces ressauts hydrauliques, c'est peut-être l'analogue de la singularité centrale du trou noir. Mais là, attention aux analogies. L'analogie n'est pas identité. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quand même une sorte de modèle, et sur ce modèle, un scénario possible pour ce que serait la singularité centrale du trou noir astrophysique.